pas, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Qu'il soit farouche et éphémère, ou vécu dans un temps long, l'attachement est pluriel, présent, non évident. Il se manifeste dans le feu dévorant d'une adoration, dans la persévérance têtue d'une fidélité, dans un intérêt diffus qui se fait parfois dépendance. Pour des lieux, des humains, des non-humains, des souvenirs, des causes, des choses parfois chères dans leur immatérialité délicate. Toi aussi, tu as peut-être répondu à « Si tu devais emporter 3 livres sur une île déserte ». On s'attache aux fictions aussi. Mais l'attachement, comment est-il représenté? Comment nous le représentons et que dit-il de nous? À quoi, d'eux, en nous, sommes-nous vraiment attachés? Bonsoir Samia.
Bonsoir Viviane.
Alors dans notre émission ce soir, nous avons choisi de croiser des exemples filmiques et littéraires pour parler d'attachement. Nous y avons mêlé aussi des témoignages pour comprendre nos rapports complexes, nos évitements aussi, et ce que l'attachement dit à sa manière, de ses repères qu'il constitue dans nos vies remuantes.
Cool.
Et nous venons d'écouter Jane Birch, Wish I Was You.
Et du coup, maintenant, on voulait vous proposer une petite définition de l'attachement qui est construite à partir d'un petit documentaire sur la psychologie qui est sorti sur Arte et à partir d'autres bases que peut-être les gens qui ont fait des études dans ce domaine reconnaîtront. Du coup, l'attachement, c'est le sentiment d'affection qui lie fortement à quelqu'un d'autre. Les difficultés à l'attachement, ça se manifeste quand il y a un déséquilibre entre le besoin de proximité et d'autonomie. Notre capacité à l'attachement, il se construit dès la petite enfance. Du coup, une personne qui s'appelle Marie Ainsworth, qui est psychologue et qui est une des personnes pionnières en la matière d'études de la psychologie des enfants et de l'éducation des enfants, et ben, elle a travaillé sur différents types d'attachement du coup, à travers une étude qu'elle a appelée « La situation étrange » qu'elle a menée dans les années 60-70. Alors, il y a différents types d'attachement, d'après elle, du coup, qui se créent entre l'enfance entre l'enfant et la personne qui lui porte des soins. Sa mère, par exemple. Dans son étude, c'est souvent de la mère dont il est question. Donc, cette expérience avait comme principe de mettre un enfant progressivement seul avec un étranger ou une étrangère et voir comment il réagit, s'il demande à être rassuré ou non par sa mère quand elle revient, etc. Si son absence le met en panique ou pas. Et donc, dans cette expérience, elle en tire trois types d'attachement. Le premier, elle l'appelle l'attachement sécurisant, où l'enfant proteste au départ de sa mère, mais se console vite et recommence à jouer et au retour de sa mère, ils ont de la joie, en général, ces enfants, mais retournent assez rapidement à leur jeu également. Ça représenterait 67% des enfants. Et une fois adultes, ces gens seraient assez équilibrés dans leurs relations sociales, etc. Ensuite, nous avons le deuxième type d'attachement, qui est plutôt qu'elle a appelé attachement anxieux et évitant. Dans cette catégorie, les enfants ne pleurent pas quand la mère s'en va et ne manifestent pas de joie non plus quand elle revient. Du coup, ce serait 21% des enfants à peu près. Les psys de l'époque ont d'ailleurs trouvé que c'était la meilleure catégorie parce que vu que l'enfant ne pleure pas, ça voudrait dire que l'enfant est plus autonome émotionnellement. Mais pas selon Marie Ainsworth, pour qui l'enfant inhibe ses sentiments et n'est pas dans le bien-être. Car une fois adulte, ces personnes s'investissent moins dans leurs relations et ne montrent pas leurs sentiments. Ensuite, la troisième catégorie du coup d'attachement qu'elle dégage, c'est l'attachement anxieux et ambivalent. Dans cette catégorie, les enfants explorent peu leur environnement, ils sont angoissés même quand leur mère est présente, ça représenterait 12% des enfants. Et la séparation déclenche une immense détresse et ils mettent beaucoup de temps ensuite à être réconfortés quand la mère revient. Et donc ces enfants, une fois adultes, ils arriveraient très peu à s'investir dans les relations et ils vont même avoir peur de l'abandon, beaucoup. Du coup, cette expérience a pu être menée aussi dans différentes cultures et avec différentes figures de donneurs ou donneuses de soins. Pas que la mère, du coup, ça peut être aussi le père ou un proche quelconque, voilà, à quelqu'un que l'enfant connaît. Et à différents âges aussi, ça a été testé, du coup, pas que dans la petite enfance, pour voir comment cet attachement, il se développe à travers les années. Et du coup, il apparaît à travers cette expérience et d'autres études comme celle a menée le docteur Bowlby ou le docteur Tronick, que les interactions, y compris non verbales, que l'on a avec un enfant, elles vont contribuer à une base affective sur laquelle va se baser l'enfant pour se développer et gagner en confiance en soi et en autonomie ensuite. Et contrairement à une vision désuète de l'éducation, ignorer un enfant qui pleure ne le ou la rend pas plus autonome, mais juste plus méfiante envers les relations. Donc si on décide de se reproduire, il vaut mieux être prêt ou prête à accorder beaucoup d'attention à une personne.
C'est vrai, mais on peut aussi accorder beaucoup d'attention à une personne sans se reproduire.
C'est vrai.
Donc, ce soir, nous parlons d'attachement. Vous êtes avec Desgenrés sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et pour revenir un peu à ces définitions, puisque nous ouvrons notre émission, j'avais envie, moi, de revenir à la genèse de cette thématique. Et en préparant cette émission, j'ai essayé de revenir à l'idée qui m'avait motivée, à ceux qui m'avaient donné envie d'en parler en collectif et en radio. Comment en vient-on à questionner l'attachement, autrement que dans ses excès, par exemple? En quoi l'attachement, lorsqu'il se remet en question, lorsqu'il vacille ou se rompt, est toutefois plus qu'une simple désillusion ou l'expression d'une frilosité? Est-il une expérience profonde qui vient conditionner nos rapports au monde, Pouvais-je vraiment le penser ainsi ? Je tournais l'idée dans ma tête et retournais ma bibliothèque, n'ayant pas eu accès à tous ces chiffres que tu viens de nous donner. Impossible en tout cas pour moi de considérer mes expériences personnelles comme exemplaires, suffisantes. Il me fallait trouver d'autres voies. Et c'est dans l'écriture de la romancière Violette Leduc que me vint le point de départ. Enfin, pas exactement de ses romans parce que je ne les ai en fait jamais lus, mais d'un livre d'une de ses commentatrices. J'aime bien faire des jeux de miroir, on finit toujours par voir autrement. Alors donc, je comptais répondre à ma question de l'attachement en la plaçant dans le commentaire de roman que je n'avais pas lu. Ça me semblait bien bizarre, j'adhérais complètement. Ce livre, c'est « Aimer, c'est écrire et vice-versa », Violette Leduc passionnément, sur la genèse d'une œuvre et les effets de la censure. Étude de Catherine Violet. J'y ai appris comment l'écriture de Violette Leduc est si profondément dirigée vers Simone de Beauvoir, comme l'expression infinie de son amour pour elle, pourtant aucunement réciproque. L'écriture devient un moyen de faire exister un attachement incandescent, continu, et qui va motiver sa venue à la littérature. Aimer, c'est écrire et vice-versa, nous dit-elle. Alors, chez Violette Leduc, l'écriture, c'est à la fois son choix d'expression, l'aveu de son attachement à Simone de Beauvoir, et le moyen de faire perdurer cet attachement, de le dire par l'entremise de ses personnages, le déclarer encore et encore. Cette persévérance littéraire dirigée vers son inspiratrice est extrêmement belle, mais constitue un exemple d'attachement non pas en raison de cette beauté, mais parce que cette beauté, si discrètement distillée dans l'écriture, est constamment censurée. Et je cite donc un exemple de ce livre qui dit « Scandaleuse, l'œuvre de Violette Leduc l'est sûrement. À l'époque où elle écrit, dans sa manière de dire ce qu'habituellement l'on préfère taire, et d'aborder en pionnière, parce qu'écrivain de sexe féminin, ce domaine essentiel de l'expérience humaine, cette clé privilégiée du monde que sont l'érotisme et la sexualité, à peu près sous toutes ses formes. Elle-même est d'ailleurs parfaitement consciente de ce rôle de pionnière, puisqu'elle juge Colette, entre autres, bien timide du point de vue érotique, et aimerait en dire plus qu'elle. Et ce, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'elle est convaincue que les femmes ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Et l'autre raison tient l'inspiration largement autobiographique de ses récits, y compris dans ses récits de fiction. L'œuvre de Violette Leduc est très étroitement imbriquée à sa vie, avec une exigence d'authenticité et de justesse. D'ailleurs, pour Leduc, écrire et aimer se confondent. Aimer, c'est écrire, et vice-versa. Mais cette justesse et cette mission se heurtent à son époque et à la censure éditoriale. L'attachement qui parcourt son écriture comme une colonne vertébrale, alors même qu'il ne se dit pas au grand jour, est empêché, limité, caviardé. De sorte que Violette Leduc poursuivra sa mission qu'à travers une autocensure, comme seul et fragile rempart contre les effets de la censure qui la menèrent vers une grave dépression. Alors certes, l'attachement est beau, même lorsqu'il nous envahit au point de prendre la place de toute chose. Mais il ne me fait réfléchir qu'à partir de ses empêchements et de ses finitudes, par la maladie, l'éloignement, la perte, lorsque soudain il devient impossible. Et sur ce fond d'impossibilité, il se réinvente, mais en s'auto-censurant, prudemment, pour ménager les blessures.
L'évaporé, c'est un livre qui s'ouvre sur une séparation, ou plutôt sur un départ brutal, et l'incompréhension qui s'ensuit pour celle qui reste esselée. Deux personnes qui construisaient ensemble, et qui d'un coup se retrouvent à faire un chemin séparé, celui de l'introspection. En tant que lectrice, on est prise dans les méandres de leurs vies respectives, leurs attentes, leur passé, leurs tâtonnements, leurs étonnements aussi, face à la découverte de l'attachement et de ses modalités multiples. Comme lorsque le chemin de Jenny, l'une des narratrices, croise celui de Del et Hello, un couple qui fait fusion au point de se fondre dans un seul et même nom, de l'eau de l'air. J'ai moi-même lu ce livre au moment d'une séparation, et je l'ai trouvé parlant parce que les deux narratrices sont les témoins de leurs propres souffrances, mais qu'elles en retirent aussi quelque chose de beau, de vivant et de constructif pour la suite, chacune à leur manière. Je voudrais continuer cette chronique en vous lisant un passage pour vous donner aussi, j'espère, l'envie de lire ce livre. Je descends de vélo pour prendre des photos du brouillard. Aujourd'hui, c'est bien ce dont il s'agit. Non pas de nappes sporadiques, mais d'une chape épaisse et comme infinie, qui semble avoir mangé la planète entière et les galaxies autour d'elle. 7 heures, dit ma montre. Le soleil doit être en train de se lever quelque part. Mais si je tourne sur moi-même, aucune lueur ne me permet de déterminer où se situe l'est. Je photographie des formes ébauchées, des masses confuses, aux couleurs estompées, par l'élément complice, dense et granuleux. Je ne mets pas les gants qu'elle m'a offerts. Très chauds, mais trop petits, de sorte qu'ils gênent ma circulation sanguine. Quand elle roulait auprès de moi, ou derrière moi, je l'ai portée, pour qu'elle ne soit pas déçue d'avoir mal estimé l'épaisseur de mes mains. J'avais l'impression que les petits os allaient se casser, les phalanges distales et moyennes brisées par le froid, comme des graissins. Mais aujourd'hui, je porte mes vieilles mitaines dépenaillées, imitation laine. De retour à la maison, je ferai du thé. Un frisson de délectation remonte le long de ma colonne vertébrale à cette pensée. Elle n'a pas emporté le thé avec elle. Elle n'a pas subtilisé la possibilité du thé. Je me réchaufferai les mains sur la tasse. Au début, ce sera douloureux. J'aurai l'impression de perdre les ongles. Mais ensuite, la pulpe bourdonnera d'aise. Et ce sera mieux que de ne jamais avoir eu froid. En attendant, je me contente de souffler sur la peau violacée d'une froideur cadavérique, plus rêche que du carton. Et c'est bien, ça fait l'affaire. Mais je ne t'ai jamais menti, tu sais. J'aime tes gants, tels qu'ils sont. Trop petits, tels qu'ils sont. Si tu reviens, je serai heureuse, profondément heureuse de les porter, même s'ils congestionnent mes mains. Très bien. Disons que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que je te fais ma dernière offre. Écoute-moi. Si à mon retour de cette promenade, tu es devant la maison, je ferai comme si rien ne s'était passé. Considère ça comme une amnistie. Tu n'entendras aucun reproche dans ma bouche. Tu n'auras même pas à m'expliquer pourquoi, soudain, tu m'as infligé ce que tu sais être pour moi la torture ultime, l'évaporation. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'une femme, soudain, abandonne celle à qui elle vient de dire « Quel merveilleux moment j'ai passé auprès de toi, aujourd'hui encore. Je veux ça tous les jours de la vie. Quelque chose m'a échappé. » Mes proches pensent qu'elle attendait le premier prétexte. Mon entourage n'a jamais ri avec elle, à l'idée d'avoir décroché ensemble la loterie céleste. Il ne sait pas de quoi il parle. Mes ongles essaient de s'enfuir, je les sens qui se tordent, se cambrent et se bombent pour se détacher, quitter leurs encoches de peau. Je n'aurais pas fait 1 kilomètre de plus sans en perdre un, je le crains. Je me hisse sur les pédales pour tenter de voir si une tache rouge s'esquisse dans la rue, mais je dois me rendre à l'évidence. Sa voiture n'est pas garée devant la maison. Pourtant je ne pleure pas, et je respire sans rater. C'est donc bien aujourd'hui, le jour où je renonce à elle, où j'accepte que le mystère de sa défection demeure à jamais irrésolu. Pendant ces 2 mois, j'ai couru au bord du précipice, dans un état second, que personne ne comprenait. J'embarrassais les quelques témoins de mes éclats, mais ça ne m'arrêtait pas. Je disais que je me tairais quand j'aurais les ventricules racornis, les terminaisons molles et les lobes spongieux, quand je ne serais plus qu'un tas d'ossements, secs, et que le vent sifflerait entre mes côtes. Je vociférais. Eh bien quoi ? Je suis vivante, je vibre, je me cabre, je rue, je me débat, je hurle. Je refuse le silence qu'elle m'inflige. Ce silence que je redoute par-dessus tout. Quelle coïncidence. Je lâchais un éclat de rire sans joie. Je revois le regard flou et les lèvres serrées de mes proches, bras ballants, devant le spectacle de ma douleur. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne vais tout de même pas m'excuser d'avoir été victime d'une sadique et d'y avoir survécu. Aujourd'hui, je ne dis pas seulement au revoir à l'évaporée, mais aussi à la tragédienne qui s'était emparée de moi. Aujourd'hui, franchement, ça va.
Nous venons d'entendre une lecture et une présentation du livre « L'évaporée » de Fanny Chiarello et de Wendy Delorme, sorti en 2022 aux éditions Cambourakis. Et nous allons écouter à présent une cover que vous reconnaîtrez sans doute, mais qui a été faite par Mary Spender, qui joue en trio, le trio Mary Spender d'ailleurs, où elle joue les 3 voix en même temps.
Hey, Bass, what did you get up to for Valentine's Day? You know we're single.
Oh, yeah.
Or you could say
married to our work.
Only single people say that.
True.
Where is Drums?
She'll be here.
We have to be kinder to ourselves.
Hey, sorry. Hi, how you doing?
Sup.
Hey, Drums.
Hot date?
Well, a lady never tells, but, no, definitely not. Still very much hung up, you know?
Yeah, we know.
Mm-hmm.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't,
built a home and watched it burn. Oh, I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing.
Tu vois mes pieds dans la glace ?
Oui.
Tu les trouves jolis ?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi ?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses ?
Aussi.
Tu vois mon derrière dans la glace ?
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses ?
Oui, très.
Et mes seins, tu les aimes ?
Oui, énormément.
Qu'est-ce que tu préfères ? Mes seins ou la pointe de mes seins ?
Je sais pas, c'est pareil.
Et mes épaules, tu les aimes ?
Oui.
Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Et mon visage ?
Aussi.
Tout ? La bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles ?
Oui, tout.
Donc, tu m'aimes totalement ?
Oui, je t'aime totalement. Tendrement, tragiquement.
Moi aussi, Paul. Vous aurez peut-être reconnu ce dialogue que nous avons rejoué pour évincer musique de fond et voix originelle. Dialogue issu du film Le Mépris. Nous n'avons nullement envie de parler de Godard, mais plutôt l'envie de se servir de lui, de prendre un de ces réalisateurs monstres de leur génération comme tremplin d'une réflexion. Ce qui me frappe dans cet extrait, c'est que l'attachement pour se dire doit détacher. Mais quoi donc ? Le corps des femmes, précisément. Et vous me direz que c'est un lieu commun de la littérature courtoise que de célébrer l'être aimé par son détail, comme les yeux d'Elsa, les chevelures, ou l'incroyable liste des petits noms donnés à Loulou, par ses amants, pour ne pas l'appeler telle qu'elle se nomme. Toutes ces femmes sont admirées par le fragment, au travers d'une lorgnette rétrécissante, et censées pourtant, quel paradoxe, les célébrer telles qu'elles sont. On démembre, on détache, comme si ces femmes ne pouvaient être aimées que par petits bouts, ou comme si seuls quelques petits bouts d'elles pouvaient être aimables. Dans le cinéma, cela se vérifie aussi. Durant les années 50-60, le cinéma hollywoodien particulièrement, se plaisait à exploiter la figure du savant. Non pas fou, mais génial. Enfin, dans les canons de 50-60, génial celui qui arrive à sauver par sa science toute masculine et puissante les femmes. Mais aussi, dans cette même période, la Terre, justifiant sa domination, est le bien fondé de ses recherches exploratrices et exploitantes. Dans Le cerveau qui ne voulait pas mourir, de 1962, la fiancée du docteur Bill Kortner se retrouve décapitée suite à un terrible accident de voiture. D'habitude, l'histoire s'arrête là, tragiquement. Mais dans le film, sa tête est toutefois maintenue en vie par le scientifique, qui va se mettre à la recherche d'un nouveau corps. Une tête qui parle, voilà ce qui reste de la fiancée. Et en guise de prétexte à l'expérimentation, l'attachement amoureux qui justifie tout. Même scénario pour Les yeux sans visage de 1959. Bien que là, il s'agisse d'un père neurochirurgien renommé qui donne un autre visage à sa fille défigurée après, eh bien, un accident. On peut penser aussi à El Piel que Habito, plus récent, où le chirurgien fait des tests de peau synthétique sur une femme cobaye pour sauver sa femme grièvement brûlée. Cela paraîtrait mineur, rien qu'une mode, si on ne pouvait y voir, pour reprendre Teresa de Lauretis, la réutilisation et le mélange de formes populaires et de récits, dont la construction cinématographique forme des fantasmes populaires. Car ces récits récurrents façonnent cette capacité à imaginer et à imager. Et pour reprendre encore Teresa de Lauretis, elle va produire chez les spectateurs des structures de connaissances et de sentiments. Dans ces exemples, l'attachement montré devient une connaissance d'une des modalités de l'attachement et presque sa validité. Évidemment, cela ne fonctionnerait pas pour tout le monde, mais fonctionnera quand même. L'expérimentation, qui reste en toute occasion sadique quand même, serait justifiée en tant que représentation positive de la science incarnée par l'homme et sauveuse, et exemplaire d'un attachement amoureux. Comme s'il n'y avait aucune autre manière d'exprimer l'attachement, même pour les scientifiques.
Il a l'intention de tuer quelqu'un. Pour me redonner un corps. Est-ce que tu m'entends? Oui, je sais que tu m'entends. Il cherche, il doit sillonner toute la ville. Il dit qu'il le fait pour moi. Il pourrait bien être le fils du diable. C'est un malade. Quel être inhumain. Et meurtrier. N'être plus qu'un assemblage de chair fraîche. Est-ce possible? Comment peux-tu exister? Toi, derrière la porte. Nous devons l'arrêter.
Et ben voilà, du coup, ça c'était un extrait d'un film qui s'appelle Le cerveau qui ne voulait pas mourir. Qu'on vous recommande d'aller voir. Et sinon, bah, du coup, pour continuer sur l'aspect cinéma, moi, je voulais vous parler d'autres films qui sont plus mainstream, que vous êtes plus susceptibles d'avoir vu, peut-être. Je vais commencer par parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Donc l'histoire, il n'y a pas... Si, il y a une histoire quand même. Il y a un mec qui s'appelle Joël et puis une meuf qui s'appelle Clémentine. Les deux sont des personnages plutôt normaux, quoi, plutôt banaux. Ils n'ont rien de très particulier, rien de très attachant, rien d'exceptionnel, quoi. Et puis du coup, Joël, c'est un peu l'anti-héros. Il rêve de rencontrer quelqu'un et il est tellement peu sûr de lui qu'il tombe amoureux dès qu'il y a une meuf qui le regarde. Et justement, Clémentine va le regarder et du coup, paf, amour. Et ça traite de l'attachement du coup entre deux personnes, forcément des personnes qui n'ont rien à voir ensemble, parce que Clémentine, c'est plutôt quelqu'un, elle a les cheveux colorés, elle est extravertie, elle est un peu exubérante et puis spontanée aussi, ce qu'elle veut elle le fait, quoi. Juste une parenthèse, j'ai oublié de vous dire, les films dont je vais parler là, du coup, je parle aussi de toute l'histoire, du coup, parce que je pars du principe que tout le monde les a vus. Donc si vous avez envie de les voir et que c'est pas encore fait, je vous recommande d'aller faire un tour avant, avant de revenir, voilà, parce que je vais raconter l'histoire, quoi. Bon bref, je disais... du coup, voilà, il y a de l'attachement entre ces deux personnes qui n'ont rien à voir, qui sont pas du tout compatibles a priori. Et en fait, les deux, en fait, leur histoire, ça peut pas marcher. C'est ça le truc, c'est que ça peut pas marcher. Et que du coup, c'est dans un monde, en fait, ça se passe dans une société où il existe une entreprise qui a la possibilité d'effacer votre mémoire. Dès que vous avez eu une perte, que la douleur est trop intense, quelle qu'elle soit, cette perte, et ben paf, cette société, elle vient chez vous et puis elle vous efface la mémoire de ce que vous avez envie d'oublier pour arrêter de souffrir. Et du coup, bah, les deux, à l'insu de l'autre, vont faire appel à cette entreprise. Voilà. Et du coup, malgré le fait qu'ils savent que leur histoire est vouée à l'échec, parce qu'au bout d'un moment, dans le film, ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux fait ça, malgré le fait qu'ils savent que leur histoire est jouée à l'échec, et ben ils décident de quand même la vivre, en fait. Donc voilà, c'est une histoire d'amour... plutôt pas top, mais en même temps, bah parce que oui, parce qu'en fait, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie de la part de Joël, il y a du mépris de la part de Clémentine, parce qu'elle le considère un peu aussi comme un raté, un boulet aussi dans sa vie, mais voilà, ils sont clairvoyants, et malgré tout, ils décident d'y aller. Bon, voilà, c'est du couple, c'est du couple un peu classique, quoi, mais avec une vision, je trouve, un peu plus équilibrée des choses, moins prince charmant, princesse charmante. Mais bon, voilà, ça parle de l'attachement comme ça. Tu peux réagir, Avi, si jamais t'as envie. Voilà, n'hésite pas.
Je ferai.
Cool. Le deuxième film dont je voulais parler, là, du coup, ça s'appelle Les Amours Imaginaires de Xavier Dolan. Du coup, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais du coup, il n'y a pas vraiment, franchement, d'histoire. C'est pas... En fait, c'est deux personnes, un mec et une meuf, ils sont potes dans la vie, c'est genre les meilleurs amis dans la vie, et ils tombent tous les deux amoureux d'une même personne. Donc en fait, tout le film, ça va être leur détresse amoureuse parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir cette personne et qu'ils sont en concurrence et qu'ils vont même se battre devant cette personne pour essayer de l'obtenir, d'obtenir son cœur. Voilà. Donc,
c'est assez primaire quand même.
Ouais, c'est assez primaire, ouais. Et en fait, ce film, il est ouf. Il parle de l'attachement, du coup, voilà. Mais il est ouf. Le modèle que ça propose, en fait, c'est incroyable, moi je trouve. Les deux, ils sont trop tristes d'être, de pas avoir la personne qui veulent avoir. D'ailleurs, cette personne n'a pas vraiment de personnalité. Elle a très peu de texte au final dans le film. Juste, c'est un beau gosse, quoi. C'est tout. Sois beau et tais-toi. Bon, ça me va, mais... Bref. Voilà.
Moins.
Mais n'empêche que ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas tant la personne qui les intéresse que l'image qu'ils se font de cette personne.
Et encore une fois, une petite fragmentation de la personne.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Et du coup, ouais, ils sont tous les deux à donf et ils se morfondent tout le long du film. Et il y a ces scènes, du coup, très esthétisées, avec une petite musique style opéra ou style chanson populaire, où ils sont en couple avec... Enfin, ils ont quand même des relations avec d'autres personnes en attendant, parce que voilà, faut pas perdre de temps, quoi. Et ils sont juste leur détresse émotionnelle est esthétisée à fond. Ils sont tristes, quoi, juste à côté de la personne qu'ils ont pécho pour ce soir, tu vois. Et je trouve ça ouf comme modèle de sociabilisation, comme modèle d'amour que ça propose. Que c'est les autres, les personnages, ils sont tellement secondaires qu'on n'en a rien à faire de la considération à leur porter dans ce genre de circonstances. Moi, je trouve ça incroyable.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le fait pas trop.
Ou en tout cas... Bon, bref. je vais commencer à être violente, je vais m'arrêter là. Ensuite, le film suivant dont je voulais parler, du coup, il s'appelle Alf Nelson de Ryan Fleck et Anna Boden. Donc, pareil, une histoire d'anti-héros. Et pareil, pour dire qu'en fait, c'est tous des films qui ont eu une certaine popularité, qui ont marché, qui ont une certaine reconnaissance et qui proposent un modèle de sociabilité et un modèle d'amour que je trouve assez ouf, quoi, assez affligeant. Mais bon, bref, voilà. Donc, l'histoire, c'est un prof, Alf Nelson, du coup, c'est un prof d'histoire géo dans un collège de zone. Il est toxico. C'est encore une image d'un anti-héros auquel on est supposé s'attacher. Et du coup, dans ce film, du coup, il a différents rapports avec les gens, un rapport très bizarre et ambivalent avec une de ses élèves. Il retrouve une de ses ex qui a réussi à se sortir, elle, de l'addiction et qui, du coup, va se marier. Et il essaye aussi de choper, à un moment donné dans le film, une de ses collègues de travail, une prof qui travaille dans le collège aussi. Et en fait, il y arrive et le lendemain matin, il se comporte de manière totalement abjecte avec lui, avec elle. Et en fait, tout le film, tout le long du film, le gars, tout ce qu'il fait, c'est tourner autour de son nombril. Non, vous comprenez, je peux pas changer. Non, vraiment, c'est trop dur, quoi. Et c'est tout. Et ok, donc le film il parle d'addiction, de quel point c'est difficile de s'en sortir et de rebondir, mais c'est juste une énième aussi vision du truc où c'est un gars qui tourne autour de son nombril et parce que sous prétexte qu'il a une addiction et que c'est dur, il se permet de se comporter comme un connard avec son environnement, avec les gens autour de lui, quoi. Donc voilà, un autre film qui parle d'attachement et que je trouve... assez déplorable dans le message que ça veut véhiculer. Je pense que ce serait chouette qu'il se passe autre chose. Mais à part ça, il est bien filmé, enfin, c'est intéressant. Enfin, bon, voilà. Il casse pas quatre pattes à un canard non plus, mais il est bien. Bref. Une petite réaction, non, c'est bon.
Non, non.
Ok, j'enchaîne, car je sens que vous adorez ça. Après, je voulais parler de la série qui s'appelle Breaking Bad. Inutile de présenter, je pense qu'à peu près 90% de la planète a vu cette série. Ou plutôt 90% de l'Europe, je dirais, pour être précise. Donc, du coup, pour Viviane, je vais quand même redire de quoi qu'il s'agit.
Merci.
Donc, Breaking Bad de Vince Gilligan. Donc, c'est l'histoire d'un prof de sciences dans un collège ou un lycée. Bon, bref, voilà. Le gonze, il a une petite vie de famille, marié, deux enfants ou un enfant ? Un enfant, je crois. Et en fait, il se rend compte à un moment donné qu'il a un cancer. Et du coup, c'est terrible, il risque de mourir, affreux. Et du coup, il a peur dans cette histoire de ne rien laisser à sa famille une fois qu'il mourra. Alors du coup, il décide pour ça de... Officiellement, il décide de se mettre à vendre de la drogue, logique, pour pouvoir fabriquer, parce que c'est un prof de science, du coup, il sait fabriquer, il sait faire de la chimie. Donc, il décide de fabriquer des drogues et tout ça pour pouvoir les vendre. Et après aussi, il décide, en vrai, ça c'est la version un peu plus officieuse, c'est la version qu'on peut comprendre. Il décide en fait aussi de juste vivre la vie qu'il rêvait d'avoir. Il s'achète une grosse bagnole, il se comporte comme un macho avec sa femme, un truc de fou, enfin... Et voilà, et encore une fois, il fait que aller de mal en pis dans sa situation juste parce qu'il veut y aller à fond et que voilà, dans cette histoire, moi je trouve qu'il pense qu'à lui, encore une fois, c'est encore une image d'un gars qui pense à lui.
Mais c'est des contre-modèles d'attachement ou c'est des modèles d'attachement tous ces films ?
Eh ben moi je pense que c'est un peu les deux en fait, c'est un peu ambivalent parce que d'un côté ça dit « oh c'est pas bien », mais d'un autre côté c'est rock'n'roll d'être pas bien. Alors voilà, c'est ambivalent en fait. Ça te propose un truc, ça se fait plaisir en le faisant comme ça le fait, et après, en fait, débrouille-toi avec la morale.
Ou peut-être qu'il n'y a pas de modèle.
Peut-être qu'il n'y a pas de modèle, peut-être pas, en fait. Mais moi, je trouve que, en fait, tel que c'est raconté, tel que sont montrés les personnages, c'est aussi assez réaliste. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir affaire à ça dans la vie. Et du coup, dans ce sens-là, je trouve que ça justifie aussi le fait que c'est possible et que c'est faisable de se comporter comme ça.
Oui, c'est ce que disait Teresa De Laurentiis. D'ailleurs, si vous voulez le lire, c'est un livre particulièrement centré sur le cinéma.
Voilà, trop bien. Donc voilà. Donc si elle l'a dit, ça veut dire que c'est bien ce que j'ai. Non, bon, bref.
Exactement.
Et bon, du coup, ensuite, je voulais vous proposer de parler d'un film qui s'appelle À bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson. C'est un autre type d'histoire d'attachement, là, ce coup-ci. Donc, c'est l'histoire de trois frangins qui décident de faire un voyage en Inde, du côté de l'Inde, enfin, par là-bas, pour aller retrouver leur mère. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gonzes, ils ont perdu leur père, il est mort récemment, ils se sont présentés aux funérailles, et leur mère n'est pas venue. Et eux, ils partent en voyage, du coup, pour retrouver leur mère et savoir pourquoi elle n'est pas venue, lui demander des explications, mais ils le font en emportant tous les bagages du père. Donc ils sont là avec des tonnes de Mal Vuitton à travers tout le pays et tout ça. Et ils vont de l'Inde jusqu'au Népal, un truc comme ça. Et bon bref, ils se baladent tous ces bagages, il leur arrive des tas d'aventures qui leur permettent de faire leur deuil de leur père. Et en même temps qu'ils font leur deuil, en même temps qu'ils se rapprochent de leur mère pour essayer d'avoir des explications qu'elle ne leur donnera pas. Spoiler. Et ben... En fait, l'attachement qu'ils avaient envers les bagages de leur père, ils vont finir par le perdre, en fait. S'en débarrasser. Ils vont se retrouver plus forts entre eux, se rapprocher entre frères et se débarrasser de tous les bagages du père. Bon, voilà, c'est une histoire un peu de deuil, quoi. À travers un attachement matériel et aussi un attachement de leur histoire, en fait. Ce que ça représente, ces bagages aussi, c'est leur histoire avec leur père et leurs racines, quoi. Voilà, donc ça y est, ils sont devenus des hommes. Et ensuite, le dernier film dont je voulais vous parler, c'est un film qui s'appelle « Le rôle de sa vie » de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. On les adore, moi je les adore. Bref, et, du coup, dans ce film, et « Le rôle de sa vie », c'est Agnès Jaoui qui est une star incroyable, une star internationale, une super comédienne. Et à côté de ça, elle a Karine Viard qui joue son admiratrice, en fait. Et qui va finir par être embauchée auprès d'elle pour écrire un bouquin sur sa vie, je crois. Je me rappelle plus très bien. Bref, voilà. Et du coup, il y a cette histoire d'attachement entre l'admiratrice et la star. Et le truc un peu bizarre et malsain, en fait, compliqué, parce que la star, du coup, elle en a tellement vu de toutes les couleurs, les gens ne peuvent plus être naturels en sa présence, parce que c'est la star. Et du coup, elle se retrouve à avoir un rapport aux gens complètement biaisé et difficile. Et du coup, bah, elle se met à être abominable un peu avec tout le monde, y compris avec son admiratrice, qui, du coup, en comparaison, est représentée comme une sainte. Voilà, donc ces différents modèles d'attachement voilà, donc, qui parlent, qui sont évoqués, et de manière plus ou moins critique. Et, c'est, voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit des fois quand on regarde un film. C'est ce truc de comment les relations sociales sont représentées, qu'est-ce qu'elles dépeignent, et à quel point elles sont promues ou critiquées. Parce que je trouve que c'est dommage que en fait j'ai l'impression, pour faire ma vieille réac là, j'ai l'impression que en fait les relations entre les gens elles vont vers tout le monde se croit en fait le personnage principal et les autres c'est des personnages secondaires alors qu'en fait on est tous des personnes et du coup ça serait bien de le garder à l'esprit un peu quand on a des interactions avec les gens, je trouve.
Voilà. Qu'est-ce que t'es réac?
Ouais, je sais. Ouais. Désolée. Bon voilà, j'ai fini mon petit topo cinéma.
C'est bien, merci Samia pour ce topo cinéma. Mais en fait, ce qui est compliqué aussi, souvent, alors tu disais que ça constitue des modèles, des discours, et qu'il faut faire attention à tout ça. Ce qui a aussi parfois de très difficile à mesurer, c'est qu'ils influencent des imaginaires. Et donc aussi, modèle des inconscients qu'on a envie de reproduire parce qu'on a été soumis à des formes récurrentes de narration et de fiction. Dans laquelle eh ben, l'attachement peut être justifié par des attitudes méprisables, par du sadisme, par plein de choses. Mmh. Et en fait, penser l'attachement, réfléchir à cet attachement, c'est aussi refuser que des cultures dominantes, des modèles dominants, puissent encore exister sans qu'on puisse les critiquer, et les critiquer plus en tout cas. Mmh. Mais cet attachement dans le cinéma, alors dans tes exemples, ils sont pour beaucoup liés aux relations amoureuses. Et évidemment, mm-hmm. il y a aussi la dimension de la famille, du deuil, de l'objet. Pour cette dernière partie d'émission, on va essayer aussi d'amener d'autres composantes. Alors revenir quand même à l'amour, qui est un pivot central.
Oui.
Dans l'attachement en tout cas, mais aussi au lieu et peut-être aussi au non-humain, mm-hmm. qu'on pourrait peut-être évoquer aussi en fin de cette émission.
Oui. Et du coup, pour enchaîner du coup avec ces histoires d'amour, parce que quand on parle d'attachement, c'est un peu la première chose à laquelle on pense, et c'est à l'amour quoi. Et bah, du coup, peut-être je voulais parler vite fait aussi d'une brochure qui existe sur infokiosque.net qui s'appelle « Contre l'amour ». Et alors du coup, c'est une brochure qui parle... qui parle spécifiquement de la tarte au coinche, ouais, du coup. Et alors, du coup, il est question de remettre en... C'est ça, quand t'écris tes blagues et qu'en fait, t'arrives pas à les lire.
Ça m'a fait rire.
Merci d'être bon public. Donc, il est question, comme vous l'avez compris, de remettre en cause le modèle de l'amour tel qu'il est un peu véhiculé dans tous ces médias qu'on a évoqués, mais aussi les chansons, tout plein de trucs, en fait. Et du coup, dedans, ça parle de relations amoureuses. Du coup, ça tente de déconstruire tout ça. Et du coup, il y a plusieurs textes, quelques textes. Et après, il y a une autre brochure qui est sortie aussi. Vous pouvez trouver sur le site qui s'appelle infokiosque.net. Et bon, du coup, ça propose de déconstruire cette image de l'amour qui voudrait quelque chose d'absolu, en fait, quelque chose de total. Quand on est amoureuse, ça doit tomber comme ça d'un coup, ça doit être total, on doit complètement penser à l'autre. C'est souvent, du coup... un modèle hétéro qui est proposé, il n'y a pas vraiment d'autres modèles, comme tu disais, qui sont proposés. Ouais, voilà, c'est un attachement total, on doit ne penser que à l'autre personne, on doit avoir de la jalousie, parce que si on la perdait, ce serait absolument terrible, ce genre de choses. Et en fait, notre amour propre dépend beaucoup du regard de l'autre aussi. Et ça doit forcément mener à une union sacrée plus ou moins éternelle, plus ou moins d'enfants et tout ça. Et la brochure est contre ce modèle d'amour total qui prend la plus grande partie de notre énergie. C'est vrai qu'il ne s'est jamais plaint ou plainte depuis qu'un tel ou une telle est en couple. Il n'y a plus moyen de le ou la voir. C'est fou, quoi. Ça prend tout. Après tout, pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? La certitude d'avoir une valeur qui dépend de la beauté de la personne qu'on a réussi à choper, comme un Pokémon, pour ce qui est du regard extérieur au couple, ou alors du regard qui nous est porté par l'aimé, qui peut nous donner de la force ou nous amener plus bas que terre, pour ce qui est du regard interne au couple. Une sécurité matérielle aussi, parce qu'on est censé partager tout ce qu'on a pour améliorer le quotidien. Mais en fait, tout ça, c'est un peu aussi on peut aussi le trouver dans l'amitié. Une base affective solide et plus intéressante, car dès lors qu'il n'y a pas eu d'échange de fluide, c'est comme si on était plus capable de garder la tête froide avec le regard des autres, qui sera d'ailleurs bien plus bienveillant en général. Une base matérielle, car la solidarité et l'entraide existent aussi entre amis. Et aussi, toutes les marques d'attention ou d'affection que les gens sont capables de partager, sans forcément partager des morpions, quoi, gagneraient à être construites et à ne plus forcément être un contrat que l'on signe avec le sang et que si on le rompt, on va direct en enfer, on passe pas par la caisse départ et on reçoit pas 20 000 francs et pendez-vous de remords en prime en plus. Donc enlever l'aspect nécessairement sexuel au moindre contact, c'est aussi faire en sorte que nos corps ne soient plus forcément perçus comme des objets de désir, mais plutôt comme des corps, tout simplement. Et bien sûr, ce travail de déconstruction, ça prend du temps, ça se fait au rythme de chacune, et on ne peut pas se voir reprocher d'être frigide ou pas bien déconstruite parce qu'on refuse un rapprochement. Le consentement, c'est avant tout. Il faut avant tout du consentement, quoi. Mais on peut aussi faire en sorte qu'un rapprochement ne soit plus si terrible, qu'on soit décomplexé et accorder plus d'importance aux liens divers que l'on tisse avec le temps. Car si nous les tissons, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens qu'on a choisis, c'est des personnes bien. Et c'est toujours mieux d'en avoir plein pour déménager que juste une.
C'est vrai. Mais quand on déménage, on peut aussi parler d'attachement au lieu, tiens.
Oui, tout à fait.
Bonsoir. Pas facile de choisir de quoi parler aujourd'hui. C'est qu'en vrai, je m'attache assez vite et à de multiples sujets. Les personnes, les personnages de fiction, les idées, les espaces. Je suis convaincue que nous formons, au long de nos vies, de multiples codépendances plus ou moins réjouissantes. Et puis, je me suis rappelé que ce qui me revient en premier dans les souvenirs, c'est le décor. Je commence par voir où nous étions lorsque nous avons eu cet instant de vie. Oui, je suis attachée aux objets inanimés. Et si je réfléchis, je crois que c'est une tradition familiale. Mon père, Biffin, a une maison remplie à ras-bord d'objets. On peut dire qu'il a fait d'un trouble un métier. J'aime les beaux objets, ceux qui ont une histoire, celle des humains précédents, celle de notre rencontre. Attention, ça ne veut pas dire que j'en prends grand soin, mais qu'une texture, un drapé, un défaut dans une page va me créer de la tendresse. C'est d'autant plus vrai pour les espaces qui nous ont abrités. Nos maisons, nos radios, nos lieux d'activité. Lorsque je retourne sur mes traces dans cette rue où tu habitais, dans cette ville où nous jouions, devant ce terrain vague qui abritait nos vies, j'ai un sentiment dont je ne connais pas d'équivalent, comme un deuil léger. Je pense à ce qui a été, et ce qu'on aurait pu continuer si. J'y pense fort en ce moment parce que c'est la fin de la BAF, ce centre social autogéré dans lequel je m'investis depuis 10 ans. Pour ce mois final, tout a une tonalité de revoir. Zoner sur les trottoirs, tenir le bar, déplacer le canapé, même aller aux chiottes. Ce qui a été, et ce qui aurait pu continuer si. Si on ne vivait pas dans un monde où le bâti n'appartient pas à celles qui le font vivre, où les propriétaires peuvent décider, après avoir continuellement augmenté le loyer, de dire, par huissier, que ça y est, où tu pensais avoir créé un chez-toi, un espace pour accueillir ce qui te fait vibrer, en fait leur appartient, et qu'il est temps de prendre tes briques et tes brocs et d'aller ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de grands projets pour avoir plus d'argent, et ça me met grave vénère. Je me rappelle pas avoir vécu des déménagements que j'ai choisis, et à chaque fois c'est douloureux. Pendant un temps, ce sentiment m'a fait me dire que je pourrais pas vivre en squat, parce que je voulais pas vivre ça tous les ans. Et puis, je m'y suis mise. Malgré ces attachements au mur, le plus important étaient les personnes avec qui je les habitais. J'ai pu rencontrer d'autres villes, d'autres maisons, d'autres agencements et décos. Et pourtant, quand je repasse, il y a ce sentiment, ce petit pincement, sur ce que ça a été et ce que ça aurait pu être. Savoir que quelque chose se termine à une date précise est comme être à deux endroits à la fois, maintenant et après. Un peu comme quand on ralentit le rythme de lecture dans les dernières pages pour ne pas quitter l'univers créé par l'autrice. Suspendre le temps, faire que ce ne soit pas tout à fait la fin, comme danser jusqu'au petit jour. Je suis fascinée par celles qui écrivent des fanfictions sur Internet ou dans leur tête, qui continuent à imaginer, parce qu'elles ne sont pas prêtes à quitter cet univers, ces personnages. Alice Zeniter, dans Je suis une fille sans histoire, parle de cet attachement aux personnages de fiction. Comment est-ce qu'ils nous touchent, nous permettent de découvrir des pans de réalité jusqu'ici inconnus. Et voilà, j'ai pas pu résister à parler des fictions, j'avoue.
Merci Alice pour cette chronique témoignage. Et je voulais remercier aussi Camille pour la chronique qu'elle a faite sur l'évaporé. Alice et Camille ne sont pas avec nous physiquement, mais elles ont contribué à cette émission et merci beaucoup. Alors j'en profite maintenant, même si l'émission n'est pas encore terminée, parce que au cas où il nous manquerait quelques minutes, je les salue et merci. Et donc de cet attachement que nous avons essayé de questionner, nous l'avons questionné beaucoup par le biais de l'attachement amoureux. Il y a d'autres formes d'attachement, il y a celui du lieu dont vient de nous parler Alice, et puis il y en a un autre que moi j'aime beaucoup aussi. Il y en a une qui dort en boule, serrée, sans serrant, même durant les nuits d'été les plus étouffantes. L'autre dort comme un i, s'étirant élastique, souple et détendu, même dans l'extension maximale de son corps. Celle qui s'enroule sur elle-même est ma préférée, même si je crois qu'il y a beaucoup de place dans mes affections. Mais j'y suis attachée, plus électivement, plus délicatement. La nuit, elle vient dormir dans mon cou, et lorsqu'après une petite absence de quelques jours, je reviens, elle se déplie juste un tout petit peu pour poser sa tête sur ma joue. C'est ainsi les nuits, enfin, à partir de 4 heures. Et dans ce rythme, mon sommeil l'attend, s'accommode, pour lancer un peu de conscience endormie à mon corps, et de bouger pour qu'elle s'y cale. Une chorégraphie parfaite, lente, où chacune prend sa place et où chacune a sa place pour l'autre. Je n'y vois d'ailleurs aucune différence d'elle à moi dans l'expression de nos attachements réciproques. Mais le voit-elle ainsi aussi? Elle, mon espèce compagne, pour reprendre la formule de Donna Haraway, mon magnifique chat de gouttière. Dans son livre « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» paru en 2012, Vinciane Després cherche dans une structuration un abécédaire allié éthologie et philosophie. Ainsi pouvons-nous lire en enfilade ou par saut choisi cet alphabet déplié en mots-clés, A comme artiste, B comme bête, C comme corps ou V comme version. En E comme exhibitionniste, le sous-titre « Se voit-il comme nous les voyons ?» j'entends l'écho de ma question. Voit-elle mon attachement comme je le vois ? La possibilité de répondre à cette question tient, chez Vinciane Després, à montrer, à exhiber donc ces échanges. Lorsque je vous raconte comment doucement mon chat vient à me montrer son attachement en venant s'entortiller dans mon cou, je ne raconte pas seulement mon attachement ni ce que j'imagine du sien, mais je spectacularise, je donne à voir pour qu'enfin je puisse, pour reprendre Vinciane, imaginer pour voir avec les yeux d'un autre. Apprécier la mutualité d'un attachement ici se fait alors par le biais d'un point de vue extérieur, puisque la parole manque et que le travers de l'anthropomorphisme est évité. J'invente une spectatrice. Non pas pour voir ce que j'y vois déjà, mais pour qu'il me fasse voir autre chose. Et en l'occurrence, comment, quand je récite mon attachement à mon chat et moi-même fabriquons communément des espèces compagnes. Je suis moi aussi son espèce compagne. Mais vais-je ainsi mieux la comprendre? Et est-ce si important de mieux la comprendre? N'y a-t-il pas non plus dans cette monstration de l'attachement la pointe d'une recherche égoïste visant à dire « Tu vois, je garde le point de vue extérieur, c'est pour toi Samia, mon chat n'est pas comme les autres, il est attaché à moi ». J'aurais tout aussi bien pu dire qu'il m'aime ou qu'il écrit des poèmes, si ça avait eu de l'importance, je ne le vérifierais pas mieux. Alors faut-il lire l'attachement à nos animaux à travers la longue histoire de la domestication, où mutuellement, humaines et animaux, nous nous sommes transformés? Vincennes Després y répond à cette question dans un autre livre qui s'appelle « Et si les animaux écrivaient ?» Quant à moi, je n'arriverai pas en toute certitude à dire si mon chat est attaché à moi. L'impression d'eux me suffit. Et aussi, mais comme dans toute relation particulière, il me suffit de sentir s'affirmer une attention commune, devenant besoin, équilibre, habitude, trois fois rien en somme.
Merci.
Et nous allons bientôt conclure cette émission sur l'attachement.
Oui.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Pour sans des dialogues. Sans oui, voilà notre discours. Sans oublier de vous parler de notre prochaine émission dans 15 jours.
Oui. Une émission qui va parler du métier de secrétaire, comment il a évolué dans l'histoire et plein de trucs politiques tout autour parce que c'est très très riche de questions politiques tout ça aussi. Voilà.
Et on va se quitter avec un petit clin d'œil à un film.
Oui, on va se quitter avec un morceau qui se trouve dans le film Eternal Sunshine et voilà qui s'appelle Wadanatod de Lata Mengeshkar. Voilà. Bonne écoute, à la prochaine, bonne soirée et amusez-vous bien sur Radio Campus Grenoble. Bisous.